19h28, on va parler culture dans votre grand journal du soir, Philippe Bondel.
La demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Mathieu Charrier, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Notre monsieur cinéma, Vanessa Zah, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez en Égypte, si j'ai bien compris. Thierry Geffrotin, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Vous êtes venu avec un piano et notre invité que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien, Jérôme Commandeur, bonsoir Jérôme.
Bonsoir à tous.
Je dis ça, je parle au passé, car vous étiez dans la matinale, la saison passée tous les jours à 7h25. Je précise que vous n'avez pas été viré, c'est vous qui avez demandé à partir pour faire
ça, c'est la
votre retour sur scène. Mais oui, il faut le dire. Il y a une tournée dans toute la France et là, Jérôme, vous êtes désormais au Casino de Paris. Le spectacle s'appelle Tout en douceur. Que veut dire ce titre? Veut-il dire d'ailleurs quelque chose?
Ah ben c'est pas con, non mais c'est bien de faire des titres qui veulent rien dire. Non, ouais. Oui, j'aimais bien l'idée de la bienveillance, l'idée du cocooning, etc. Et ce qui me permet d'envoyer un peu une fausse piste, parce qu'à l'intérieur, quand on voit le spectacle, c'est beaucoup plus trash. Et visuellement, si les gens veulent voir, c'est un pull, c'est une parodie des
un
pulls
peu un peu... Ciel.
Ouais, voilà.
Pull Marine, la Jenny,
exactement,
la pub Woolite, pour pas la citer.
Exactement, des années 80.
Voilà, c'était votre rêve secret de mettre ce genre de pull.
De mettre un pull.
Ouais, et d'avoir le droit.
Non, c'est que souvent dans la rue, on me dit, on me confond avec Isabelle Adjani.
Ouais. Au niveau des cheveux surtout.
Ouais. Des cheveux et de la taille. Et non, c'était un petit clin d'œil aux années 80. Mais en revanche, j'aime bien l'idée, pour parler du spectacle, de dire des choses un peu hard, un peu trash, qui viennent un peu bousculer les gens dans une enveloppe un peu chic, un peu jolie. Ça, j'aime bien.
Alors, j'ai eu la chance de voir le spectacle. Vous dites un peu trash, parfois c'est très trash. Sur les Vosges, quand même, vous y allez vraiment très fort.
Oui, alors je ne peux pas expliquer pourquoi.
Non, on ne peut pas le dire. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. Mais quand vous y allez tellement fort qu'avant de faire sa minute et demie sur les Vosges, il fait 5 minutes de préparation du public.
Oui, je prépare. En fait, c'est marrant, c'est la technique du lance-pierre, en fait. C'est-à-dire que je prépare tellement les gens, je les fais tellement monter en mayonnaise, quoi, qu'ils se disent, mais c'est pas possible, où est-ce qu'ils nous emmènent? Et puis, paf, je lâche après les cartouches. Et les gens sont un peu terrassés de ce qu'ils viennent d'entendre. Mais j'adore ça parce que je trouve, c'est une question qu'on nous pose souvent dans le rapport que les gens ont avec le spectacle. C'est un des rares espaces non médiatisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfant qui crie, on est dans le noir, il n'y a pas de téléphone, on ne filme pas, alors qu'aujourd'hui, il y a des caméras partout. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce truc très jouissif, très libérateur, d'aller très très loin. Mais en revanche, j'aime bien qu'on ressorte quand même ensemble. C'est-à-dire, j'aime bien le côté un peu une tape, une caresse. C'est-à-dire, j'aime bien que ça aille très très loin et en même temps qu'à la fin, il y ait quelque chose de bienveillant.
Et je précise qu'évidemment, les gens ont choisi d'aller vous voir et c'est pas comme quand on arrive dans la cuisine, dans le salon des gens, à la télé.
Évidemment.
Les gens, c'est public. Juste une question, est-ce que vous avez joué ce passage à Épinal dans les Vosges?
Alors, je me suis approché. Je l'ai fait à Mulhouse.
Ouais.
Je l'ai fait à Nancy. Je vous jure que c'est vrai en plus. Mais je n'ai pas poussé plus loin. Pour des raisons de sécurité.
Vous faites des références à l'actualité immédiate?
Assez peu, parce que là, oui, il y a quelques phrases sur les gilets jaunes, parce qu'évidemment, ça
Ah non, ils sont drôles. Ah non, vous racontez, c'est plus que l'actualité, vous racontez les gilets jaunes, vous les imaginez en Corée du Nord.
Non, mais. Ouais, ça ne durerait pas très très longtemps. Mais. Non, je dis, c'est que, évidemment, la base du mouvement des gilets jaunes, le fait de ne pas pouvoir arriver à finir son mois, c'est d'une violence inouïe et que ça, c'est éminemment respectable, mais que c'est tout ce qui, enfin j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est tout ce qu'il y a autour, les vandales, les dingues. L'autre jour, j'ai vu, effectivement, je raconte ça, j'ai vu sur internet, mais c'est vrai, enfin, et de le raconter sur scène, on se dit mais c'est pas possible, il y avait un militaire 70, 75 ans en retraite, et puis le type il dit, si les gilets jaunes sont d'accord, je veux bien remplacer Macron.
J'ai vu cette vidéo. Puis il a une sacrée tronche en plus.
Voilà. Et donc le type était sur son fauteuil Everstill, comme ça, avec le risotto de sa femme qui cuit derrière. Le chien qui se lèche les bouliches devant Question pour un champion. Et lui, il est là, la pipe au bec avec son. Et voilà. Et ça m'intéresse parce que des dingues, c'est toujours, c'est toujours propice à la comédie.
Puisque vous parlez de Question pour un champion, vous défouraillez contre la télé et c'est très très drôle.
On a perdu Jérôme.
Ouais, non,
il s'attendait pas à ce mot du tout.
Il s'est étouffé avec son café.
Par exemple, j'avais jamais vu des choses comme ça.
Mais qu'est-ce que c'est que ce verbe?
Vous allez comprendre.
C'est une expression des années 70.
Il avait vu. C'est mon monde.
C'est son âge.
Vous savez qu'il y a des gens qui vont voir. Au fait, votre spectacle est joué en matinée.
Oui.
Ah d'accord, voilà.
Non, non, il faut expliquer. La matinée, c'est 17h voilà. Pour les... dans le jargon du théâtre.
Voilà. Donc c'est pour les gens des années 70.
Je vais sortir. Hein,
à quelle heure vous allez au théâtre, vous, Thierry?
Bon, moi, les captations, comme je ne dors pas la nuit, je sais du replay.
Je ne verrai plus jamais les émissions d'M6 et les magazines comme Capital, oui, après vous avoir vu. Alors, racontez la structure de ces magazines.
Oui, non, parce que je suis fasciné. En fait, je parle des gens qui se font escroquer en vacances et qui vont ensuite chialer dans Capital. Il y a une bonne femme, elle dit « Ah, mais j'ai fait une semaine à Gerba, tout compris, à 89 euros, avion plus hôtel. » Je dis « Oui, c'est même pas le prix du taxi pour aller à l'aéroport. »
Non mais ce que vous racontez, c'est qu'il y a une structure géniale, je l'ai jamais vue. Il y a des reportages pendant une heure et demie, et à la fin t'as 20 minutes des gens qui se font arnaquer. Le mec, ce que raconte Jérôme,
oui, dit, il y a un Capital sur, tu fais une heure et demie sur les bigoudis chauffants, et à la fin t'as 20 minutes sur une vieille qui s'est quand même fait cramer la gueule par deux bigoudis, qui a plus de cheveux
comme vous,
que tu vas interviewer et qui tient son œil dans sa main, on dirait Albator. Et donc voilà. Donc voilà, je raconte ça. Mais j'aime bien. Alors, j'aime pas trop le terme d'actu. J'aime bien l'idée de l'ère du temps. Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, en ce moment, c'est la violence sur les réseaux sociaux. Ça peut être les témoignages à la télé. Dès qu'on allume la télé, il y a un témoignage. Voilà, j'aime ce qui fait un peu l'époque. Quoi.
Et puis alors, j'ai découvert quelque chose. J'ai vu cette émission. Je l'ai vue très souvent, mais je l'avais jamais vue comme vous. La vieille qui vient vendre sa flûte.
Ah oui, non, chez Sophie d'avant. Oui, je dis, non, parce que je dis, il y a des profils de candidats ou de témoins, on va dire, par chaîne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on a plutôt dont les profils se retrouvent plutôt sur TF1. M6, c'est les cadras. Et je dis, France 2, c'est les vieux. Ils ont pris un truc. Ils adorent les vieux. Il faut s'occuper des vieux. Parce que je sais pas, ça sent bon, ça sent l'eau de Cologne, je sais pas quoi. Et je dis, notamment, toi, t'es à 15h, t'es là, puis il y a une vieille qui va vendre une flûte chez Sophie d'avant. Bon. Parce que la flûte, elle est sur la table de chevet, elle sert plus. Alors la vieille, elle dit, voilà. J'arrive plus à souffler dedans, j'ai plus de souffle. Alors Sophie d'avant, elle est là, bon, elle en a rien à foutre. Elle dit oui, mais c'est qu'une flûte. Bah oui, oui, je viens vendre une flûte, donc c'est qu'une flûte, c'est sûr. Et puis il y a une autre vieille derrière qui s'y connaît bien en flûte, qui elle dit, bah je vais l'acheter 10 balles. Alors la première vieille qui vient vendre la flûte, bah elle est contente, elle rentre chez elle avec ses 10 balles. Puis les gens regardent ça, et puis alors, c'est pas du grand spectacle. On n'est pas Hollywood, mais...
Mais ça cartonne surtout.
Ouais, voilà,
ça cartonne. Ça marche très bien.
Oh mon Dieu, j'en ai les larmes aux yeux. Il s'appelle Jérôme Commandeur, ça s'appelle Tout en douceur, c'est au Casino de Paris. Reste avec nous, avec Vanessa, avec Thierry, avec Mathieu Charrier, juste après ça.
Il est 19h38, on retrouve tout de suite Philippe Vandel, ses chroniqueurs, son invité.
Suite de la demi-heure culturelle avec Mathieu Charrier, Vanessa Zah, Thierry Geffrotin et notre invité Jérôme Commandeur. Son spectacle, ça s'appelle Tout en douceur et c'est au Casino de Paris tous les soirs à 21h, matinée le samedi, c'est à 17h. Vous n'aimez pas les gens qui disent que c'était mieux avant?
Ah oui, c'est insupportable. Mais non, j'ai remarqué parce qu'on vit en France dans un truc très 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 passéiste. Enfin, quand même, on a un goût pour les morts. Enfin, c'est fou, quoi. Il y a un truc. Tu peux pas allumer une télé sans qu'il y ait Joe Dassin, Balavoine, Dalida, Clo-Clo. On a l'impression qu'ils sont là, qu'ils sont vivants, qu'ils sortent des nouveaux albums. Enfin, c'est un truc. Et c'est vrai que.
Ouais, mais quand même, vous faites référence au 14e siècle. Évidemment, on vit mieux qu'au 14e siècle avec les cochons dans la rue.
Oui, bah voilà. Non, mais c'est ça. Non, mais parce que il y a une petite dame l'autre jour, mais c'est tout le temps. C'est des phrases, on se baigne, on les entend même plus tellement elles nous sont familières. Mais il y a une dame l'autre jour, elle me dit, on a bien besoin. Merci de nous faire sourire, on en a bien besoin, surtout en ce moment. Je dis, bah oui, bah, tu crois pas qu'au 14e siècle, à l'époque de la lèpre, quand les doigts des gens tombaient comme des poires pourries, tu vois, le gars qui avait une bonne blague carambar entre les doigts, il la lisait, ça ressoudait le groupe.
Et c'est vrai, et j'avais pas fait attention à cette phrase, on est le seul pays où les gens se disent bon courage.
Bon courage.
Comme si on allait tous à l'abattoir.
Mais comme si on allait crever, quoi.
Mais oui.
T'es là, tu sais pas, tu t'as ton pain, tu rentres chez toi, bon allez, la boulangère, bon allez, bon courage. Mais je dois traverser la rue, prendre l'ascenseur. Je dis, on n'est pas au Botswana, tu vois, on doit pas faire 1000 bornes à poil avec un étui peignin et deux chèvres pour échapper au typhus. Non mais, courage, c'est fou ce truc de bon courage.
Vous saluez le fait, la chance qu'on a de vivre en France avec cette liberté de parole assez inouïe. Il y a peu de pays dans le monde qui ont ça, mais également vous en critiquez l'abus parce que tout le monde donne son avis sur n'importe quoi. Et j'ai pas pensé à ça. Les gens, il y a des groupes de parole sur tout et n'importe quoi.
Exactement, ouais, les forums, je trouve ça. fascinant. Je ne dis pas parce qu'il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse s'exprimer, ce qui est formidable, qu'on doit forcément s'exprimer. C'est-à-dire que on a, si un jour on a un truc à dire, on le dira, mais ouais. si on n'a rien à dire, il faut surtout bien fermer sa gueule parce qu'on n'a rien à dire. Et effectivement, il y a des forums sur les croquettes pour chiens. Je dis à quel moment tu te lèves le matin en disant il faut vraiment que j'aille donner mon avis sur les dernières froliques parce que je sens que là, la France part à volo. Quoi, voilà.
Mais ça existe vraiment.
Mais bien sûr qu'il y a des forums
sur les croquettes. Mais l'inverse, forums, c'est vrai. On a besoin d'aller voir sur les forums quand on va acheter quelque chose. Maintenant,
exactement.
On a pris l'habitude d'aller voir ce que les gens en pensent. Tout
exactement.
En disant, c'est débile de dire ce qu'on en pense. C'est une espèce
qui
de...
est allé au Nicaragua en octobre
ouais, c'est ça,
t'as une meuf, bah, moi, c'est pas mal.
C'est exactement ça.
Vous savez qu'il y a même des forums sur le cinéma. D'abord, j'ai parlé avec vous, Mathieu Charrier.
Professionnel de la transition.
Je m'étais mis un post-it. Je m'étais mis un post-it. Et pour ne pas faire jaloux aujourd'hui, Mathieu Charrier.
L'homme transition.
Vous nous conseillez un film d'animation, tout est dans l'addition, qui s'appelle Le Parc des Merveilles.
Oui, est-ce que vous vous rappelez ce que vous aviez vu il y a quelques années, Vice Versa, le magnifique film des studios Pixar? Voilà. Qui nous plongeait dans les émotions, la tête d'une petite fille à travers ses émotions. Philippe me regarde avec des grands yeux.
Moi, ça ne me dit rien, mais ça parle beaucoup à Vanessa.
Oui, bon, le Parc des Merveilles, on va dire que c'est un peu la même chose, mais dans un univers un poil différent. Je m'explique, il y a une petite fille qui s'appelle June. Vous savez, petite fille parfaite, limite énervante, hein, sage, gentille, très mignonne. June construit avec sa maman son parc d'attractions rêvé dans sa chambre avec tout un tas de manèges en petites maquettes. Elle construit ça. Vraiment, c'est le parc dans lequel petit et grand aimerait passer un week-end. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où cette maman tombe malade, elle doit quitter la maison pour partir se soigner, et elle laisse donc notre petite June dans le désarroi.
Et c'est là que la petite fille atterrit dans le Parc des Merveilles.
Exactement, ce parc imaginaire va prendre vie dans son imaginaire, bien sûr, mais elle va s'y retrouver plongée, projetée avec des animaux chargés de sauver ce parc en décrépitude et qui représentent chacun un trait de caractère de June extrait.
Et si le parc de vos rêves...
Je suis dans le Parc des Merveilles.
Devenait réalité.
Sauf qui peut ! Il y a un humain dans le parc !
Ah ! On se carapate, ralalala !
Bon, allez, on se calme. Je m'appelle June. J'ai inventé le Parc des Merveilles quand j'étais petite.
Pourquoi tu as choisi un porte-pic pour assurer la sécurité ?
Aux abris ! Tous aux abris !
J'ai l'impression de m'être engagé dans une impasse.
Arrière toute.
Pip ! Pip !
Voilà, ça c'est le radar de recul, vous savez, dans les voitures. Vous entendez, ça va être le début d'une grande aventure pour June avec de méchantes petites peluches en forme de singes qui veulent tout détruire. Ça s'appelle les chimpans cinglés et ses amis, des animaux qui vont le défendre.
À part le fait d'être un jeune papa, Mathieu, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film
déjà
d'animation?
Ça, c'est déjà pas mal.
Ouais.
Les dessins, c'est pas mal aussi pour un film d'animation, des dessins assez ronds qui sont très colorés. Et puis, il y a une vraie aventure avec plusieurs niveaux de lecture, c'est ce qu'on aime dans l'animation, dans ce genre de film. Les personnages sont loufoques, attachants, notamment l'ours narcoleptique, dont la voix française est assurée par Marc Lavoine.
Oui, il est narco, bah, il dort, il s'endort dès qu'il a un peu la trouille, on dirait. Il choisit bien ses moments, et puis il est trouillard, il a peur, il est gourmand, il a plein de défauts. Mais l'enfant, cette petite fille, lui redonne du poil de la bête. On a l'impression, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, et on a l'impression qu'à travers elle, quelque chose de plus grand est en train de se faire, est en train de se produire, pour tous les animaux qui sont sacrément... presque plus humain que nous-mêmes.
Voilà, des animaux plus humains que nous-mêmes, c'est aussi la force de ce film. J'irai à partir de 6-7 ans,
excusez-moi,
si vous voulez emmener vos enfants.
Il y a Vanessa qui se sent pas bien
à
écouter la voix de Marc Lavoine.
Oui,
je l'ai vu suer de la tempe.
Comprenez-vous, Vanessa.
Du cuir chevelu.
Voilà, Parc des Merveilles, 6-7 ans, vos enfants, vos petits-enfants, c'est en salle.
Et une fois n'est pas coutume, Mathieu, vous vouliez nous conseiller un film à regarder chez soi ce week-end.
Très rapidement, Amanda, qui vient de sortir en DVD et VOD. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, Jérôme, porté par Vincent Lacoste, qui était notamment nommé au César pour ça. On en avait parlé sur l'antenne. Il doit s'occuper de sa petite nièce, orpheline, après que sa sœur ait été tuée dans un attentat. Pour moi, c'est le film de la génération Bataclan. C'est saisissant. Vraiment, prenez le temps de le voir ce week-end. Vous savez, sur votre box, en quelques clics, c'est facile. Ça s'appelle Amanda.
C'est votre avis, Mathieu Charrier. Et alors, je me souviens d'une interview de vous, Jérôme Commandeur, dans laquelle vous critiquiez, avec humour, mais quand même vous critiquiez, les étoiles sur ces sites, sans les citer, Allociné, qui donnent des notes aux films. Le type, ils sont critiques, comme moi, je suis dentiste.
Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que... Mais en fait, c'est l'époque qui veut ça. Et puis, c'est un changement de mode de pensée. C'est-à-dire que c'est pas ce site-là qu'il faut critiquer. Et puis, moi, j'y vais, etc. Mais c'est vrai que quand on se prend des... Mais c'est le principe des leçons de cinéma par des gens qui disent que voilà, votre film est à chier ou je sais pas quoi et que vous sortez de 5 mois de tournage où vous avez dû gérer des équipes et vous étiez vraiment les mains dans le cambouis. Il faut accepter que l'époque change, qu'elle évolue et que maintenant ça se fait comme ça. Mais je pense qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans, quand il y avait juste un critique cinéma roi dans Paris et que les distributeurs ou les réalisateurs ou les comédiens attendaient mercredi midi pour avoir sa critique, je pense qu'ils avaient les mêmes, la même paire de boules.
Il était détesté, Mathieu Charrier.
Non mais surtout, maintenant, les distributeurs en jouent de ces sites. C'est-à-dire qu'il y a même parfois des faux avis, des fausses notes. On voit des films qui sont des espèces vraiment de films complètement ratés qui se retrouvent avec 4 sur 5 sur Allociné. Et il y a maintenant des sites qui eux-mêmes font la vérification des notes sur les autres sites qui disent non mais regardez c'est que des faux comptes, il y a des entreprises spécialisées là-dedans, des boîtes de marketing, vous pouvez payer 1000 avis positifs sur Allociné, ça vous coûtera tant.
Sur les hôtels et les restaurants c'est pareil.
Exactement
hein.
Pareil.
Moi mon frère qui excusez-moi journaliste, mais il avait mais je vous le dis.
Moi j'ai ma belle-sœur qui est sur Niort, vous savez la ville des assurances. Elle bosse à la Maïf. Que bien, elle est très bien, elle est très contente. Avant, elle était chez AXA, ça se passait pas bien.
Ma petite belle-fille aussi.
Il avait créé, justement avec l'équipe de France 2, ils avaient monté un faux restaurant. Et au bout de 5 jours, sur TripAdvisor, il y avait 5 étoiles. Le restaurant n'existait pas. Il n'y avait rien à ce numéro-là, c'était à Montmartre. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Quoi.
Mais vous savez, Vanessa Zaza, c'est la nouvelle Élise Lucet. Je crois beaucoup.
On mise sur elle. On va l'entendre. Elle vient de se prendre un coup de micro dans l'œil. On se retrouve tout de suite après ça. Un tour à l'infirmerie. A tout de suite, les amis.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1, il est 19h47. On retrouve tout de suite Philippe Vandel.
Suite et fin de cette demi-heure culturelle du 18-20 avec Mathieu Charrier, Vanessa Zaza, Thierry Geffrotin et notre invité Jérôme Commandeur pour son spectacle Tout en douceur. C'est tous les soirs à 20h, au Casino de Paris. Thierry Geffrotin, un autre genre de spectacle, c'est une légende du piano dont vous allez nous parler maintenant. Il va se produire mercredi prochain à la Philharmonie de Paris. Il s'appelle Andras Schiff, la reine d'Angleterre l'a anobli pour ses services rendus à la musique, vous dire l'importance de l'artiste. Et vous avez rencontré cette légende à Londres, Thierry. La légende, c'est pas la reine d'Angleterre, c'est le pianiste.
Oui, bien joué. Ouais, alors on va écouter Andras Schiff parler dans quelques instants, mais d'abord on va l'écouter jouer. Jouant du Brahms. Alors que les choses soient claires.
C'est pas J'ai du bon tabac ?
Non, pas tout à fait. C'est pas de la même époque. Alors que les choses soient claires. Sur la planète piano, les artistes excellents, les très bons, les très doués ne manquent pas. Mais les pianistes de l'importance d'Andras Schiff se comptent vraiment sur les doigts d'un pianiste, d'une seule main d'un pianiste. Tout ça pour vous dire qu'assister à un récital de cet artiste, et ça sera donc mercredi prochain à la Philharmonie de Paris, c'est un moment rare, vraiment un moment rare.
Et alors en fait, de moment rare, Thierry, vous avez rencontré le maestro Eurozone.
Eh oui, alors Andras Schiff n'était pas devant un instrument, pas devant un piano, mais quand il parle de musique, c'est déjà une leçon de musique, une leçon de vie. Alors question, parce que je suis sorti du programme, hein, on a envie de l'entendre sur des tas de choses, Andras Schiff, pas seulement sur ce qu'il va jouer. Le matin, quand il se lève, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il joue ? Et il vous répond, du Bach, ou comme il dit, du Bach.
Je commence chaque jour avec Bach. Minimum une heure de Bach pour commencer. Après le petit déjeuner, sans café, ça ne marche pas. Mais après deux tasses d'espresso, je joue Bach. Et pour une satisfaction absolue, commencer avec Bach, c'est une joie de vivre.
C'est Roland Giraud dans Papy fait de l'artiste.
Ah, pas mal, ouais. Non, c'est Andras Schiff. Je tiens à vous le dire, c'est vraiment Andras Schiff.
Deux expressos du bac, donc la journée peut commencer pour lui. Il sera en concert mercredi prochain à la Philharmonie. Que va-t-il jouer ?
C'est un programme très varié. Il va jouer du Mozart, du Brahms, du Schumann, du Beethoven, du Bach. Bach, c'est son chouchou, hein, je dois le dire. Un programme varié. Ce programme, il l'a conçu, pensé comme un cadeau pour le public. Je pense que ça va intéresser Jérôme d'entendre ce que dit Andras Schiff à propos du public et des ondes qu'il dégage.
J'adore le public et... Pour moi, un concert est comme un cadeau. Avant les premières notes, je sais déjà que c'est un public magnifique ou c'est un public antipathique. Aussi, quand c'est un public moins sympathique, je dois essayer de changer le public. Quelquefois, c'est très difficile.
Donc, le choix de la première pièce d'un récital est très important.
Oui, absolument. La première note est très importante.
Andras Schiff, pianiste de légende, je tiens à le
si
dire
le
vraiment.
Si le public n'est pas gentil, je le punis.
Ah, comme vous êtes, Jérôme. Je vous invite, on ira tous les deux écouter Andras Schiff à la Philharmonie
à
mercredi 14. Prochain. Vous verrez, c'est un pianiste hors pair.
Merci beaucoup Thierry Geffrotin. Dans un sketch, je ne peux pas tout raconter, mais vous imaginez vos obsèques, il y a du piano.
Oui.
Et vous dites.
Je sais plus ce qu'il dit.
Je sais plus ce qu'il dit. Ah, on a perdu encore.
On a perdu c'était Jérôme
sur,
Commandeur.
C'était sur Andrachi.
Jérôme Commandeur, vous restez avec nous, mais là on va partir avec vous, Vanessa Zah, l'Égyptomania est de retour. Le succès de l'expo Toutankhamon est un tel carton que vous avez choisi de nous emmener en Égypte.
Puisqu'on embarque aujourd'hui pour faire un voyage tout en douceur, Jérôme, on part en croisière, c'est la meilleure manière de comprendre, de s'imprégner de toute cette civilisation. C'est un peu comme si vous étiez assis là, ben, dans un fauteuil, dans une salle de cinéma, et là des siècles d'histoire défilent devant vos yeux comme un film. En fait, il faut imaginer que d'heure en heure, les palmiers deviennent des roseaux, les montagnes, des dunes. Et puis d'un seul coup, vous avez un temple qui surgit dans un cadre, dans une lumière très particulière, toujours très dense, très dorée. Et honnêtement, ça vous laisse sans voix. C'est là que vous faites un bond de 5000 ans dans le passé. Et puis surtout, vous vous sentez bien, bien minuscule devant autant de fastes.
Et alors, où est-ce qu'on embarque? Au Caire?
Non, ça n'a pas d'intérêt en fait, de commencer la croisière depuis le Caire. Il n'y a justement rien à voir en fait, sur ce tronçon. Donc on visite le Caire et après on file sur Louxor, on embarque, on remonte le Nil vers le sud, la Haute-Égypte, et là on passe devant tous ces temples que vous connaissez bien de nom, oui. Ceux qui font rêver, Esna, El Kabet Fou, Komombo, et puis on arrive forcément à Assouan. Et là, Assouan, c'est vrai que c'est un choc pour tout le monde. Alors pourquoi? Déjà parce que c'est la ville la plus calme d'Égypte, la plus métissée surtout avec les Nubiens. Et puis tout simplement parce qu'elle est spectaculaire, elle est contrastée. Il y a du granit, de la verdure, des dunes de sable. Et en plus, vous avez les pieds dans l'eau au bord des rapides, ce qu'on appelle la cataracte. Donc la cataracte, évidemment, aucun jeu de mots s'il vous plaît sur la cataracte de l'œil. Cette cataracte, on la doit à quelqu'un. Alors on va voir si vous êtes fort en histoire. À qui on la doit cette cataracte? Rappelez-vous le programme donc, d'histoire, géographie, d'égyptologie? Non.
À une femme.
Bingo, à une déesse Isis, l'épouse d'Osiris quand il était assassiné. Elle s'est transformée en oiseau pour fuir loin jusqu'à se poser sur une île au sud, l'île de Philae. Elle a tellement pleuré que c'est là que s'est formée la cataracte et qu'a eu lieu la première crue du Nil. Cette île de Philae, les amis, c'est un joyau. Moi, j'en ai toujours des frissons quand je vous en parle et pourtant, ça fait longtemps que je l'ai vu, il y a 25 ans. La première fois, il faut la découvrir le soir à la lampe torche sur une felouque. C'est complètement féerique pour vous montrer à quel point elle